Bien sûr, RFI Matin avec Julien Coquelle-Rohem dans un peu plus de 13 minutes. Mais d'ici là, une situation dramatique pour les populations civiles et qui doit cesser dans l'est de la RDC. L'appel du porte-parole de la diplomatie française ce matin sur RFI, Christophe Lemoine, sera notre invité. Paris qui appelle au retrait du M23 et des troupes rwandaises de l'est de la RDC, ainsi qu'à un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Des terrains plus légers avec notre reportage, un art qui berce le Maghreb depuis plusieurs siècles, le Maloun, une musique aujourd'hui remise au goût du jour par le musicien Tahar Nouri. À Bangui, en Centrafrique, la première entreprise de production de jus de fruits à partir de produits locaux. Ce sera notre dossier Afrique Économie. Et puis, avez-vous tenu vos bonnes résolutions en ce mois de janvier? Charlotte Ntamack reviendra sur le Dry January. Vous savez, le mois sans alcool, ce sera son billet d'humeur. Mais d'abord, l'heure des sports. Et c'est avec vous, Baptiste Leduc, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Du foot pour commencer, il s'est fait attendre, hein, mais ça y est, le nouveau sélectionneur de Madagascar est enfin connu.
Oui, c'est donc Corentin Martins qui va prendre en main le destin des Baréas. Objectif, redonner ses lettres de noblesse à l'équipe malgache. L'ancien sélectionneur de la Mauritanie et de la Libye a présenté son ambition à la presse ce jeudi. Et notre correspondante Sarah Teto a pu lui tendre son micro.
Les autorités footballistiques du pays voient en Corentin da Silva Martins le Messi qui saura, espère-t-elle, remettre sur pied une équipe nationale à la dérive depuis son incroyable épopée jusqu'au quart de finale de la CAN en 2019. Aussi, hier, lors de la présentation du nouvel entraîneur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marcin Abdullah Mustafa, n'a pas caché son enthousiasme.
Aujourd'hui, je pense que l'équipe nationale malgache a besoin de restructuration. Il y a besoin d'un coach avec votre expertise, avec votre talent, avec votre parcours. Nous pensons que nous avons trouvé la bonne personne et nous comptons sur vous, monsieur le coach. En route pour la Coupe du Monde 2026.
Pas le temps de traîner donc, Corentin da Silva Martins a un an pour accomplir des exploits, un objectif qui paraît, avoue-t-il face à la presse, inimaginable, mais pour lequel il s'engage à se battre.
Le calendrier de la préparation est assez simple, on agit par des dates FIFA. On aura 8 jours pour préparer ces 2 matchs contre le Centrafrique et contre le Ghana. Donc je vais bien sûr commencer à partir d'aujourd'hui attaché à appeler les joueurs qui ont été appelés dernièrement dans les sélections précédentes. Et bien sûr que j'observerai les joueurs locaux. Maintenant, il faut savoir que pour pouvoir être compétitif dans des matchs de haut niveau, il faut pouvoir aussi jouer des matchs de compétition chaque semaine.
Et c'est là où le bât blesse. Aujourd'hui, le championnat malgache peine à s'organiser. Entre une qualification à la Coupe du Monde et une réorganisation du foot malgache, beaucoup d'espoir et d'attente pèsent aujourd'hui sur les épaules du nouveau sélectionneur. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Rendez-vous en mars pour les débuts de Corentin Martins sur le banc de Madagascar contre le Ghana et la Centrafrique. Ce sera dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Et on suivra ça bien sûr sur RFI. Un entraîneur français donc à Madagascar et un entraîneur sénégalais en France. Habib Bey arrive au chevet du Stade Rennais.
L'ancien Lyon a signé chez les Bretons ce jeudi jusqu'à la fin de saison. Il va essayer de relever Rennes qui est aux portes de la zone de relégation en Ligue 1 et qui vient de se séparer de Jorge Sampaoli après seulement 2 mois de collaboration. Habib Bey, 45 sélections avec le Sénégal, tient là enfin son premier poste d'entraîneur en première division après un passage réussi au Red Star, achevé la saison passée par une montée en Ligue 2.
Le mercato qui concerne les entraîneurs, mais surtout les joueurs, Baptiste.
Bien sûr.
Et on entre d'ailleurs dans les derniers instants du marché hivernal, mais ça continue de bouger.
Oui, avec 2 signatures à vous partager, celle d'Hakim Ziyech d'abord. L'international marocain quitte la Turquie et Galatasaray pour aller signer à Al Douhay au Qatar, le leader du championnat qatarien. Et puis un champion d'Afrique ivoirien qui retrouve un club, Ghislain Konan, après 5 mois loin des terrains depuis son départ d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Il va se relancer sous le soleil espagnol à Burgos en 2e division.
Le journal des sports de Baptiste Leduc sur RFI. On vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce 31 janvier. 3 otages et 5 Thaïlandais libérés hier à Gaza en échange de 110 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cet échange est le 3e dans le cadre de l'accord de trêve entre le Hamas et Israël, entré en vigueur le 19 janvier. Pendant ce temps, En Cisjordanie, Israël poursuit son opération militaire où deux Palestiniens ont été tués hier selon l'autorité palestinienne. Donald Trump, quant à lui, qui se dit persuadé que l'Égypte et la Jordanie finiront par accepter d'accueillir les plus de 2 millions d'habitants de Gaza, comme il en a émis le souhait, et bien que le Caire et Damas aient immédiatement rejeté cette éventualité. Nous faisons beaucoup pour eux et ils vont le faire, a répété le président américain. Les deux boîtes noires de l'avion de Lynn qui s'est écrasé mercredi soir à Washington après une collision avec un hélicoptère militaire ont été retrouvées, une collision qui a fait 67 morts. En Ukraine, une attaque de drones lancée par la Russie a fait au moins 9 morts dans une zone résidentielle de Soumy, une localité de l'est du pays. Il est essentiel que le monde n'arrête pas de mettre la pression sur la Russie pour cette erreur. Sa terreur, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis en France, la commission mixte paritaire en voie d'aboutir à un compromis sur le budget de l'État. Les 7 sénateurs et 7 députés reprennent leurs travaux ce matin. Allez, un peu de légèreté et de poésie pour notre reportage du jour, avec un style musical vieux de plusieurs siècles et qui est cher au Maghreb. C'est le Maloun, chanté en dialecte, un style aujourd'hui revisité par un artiste marocain de plus en plus en vue. Il s'appelle Taha Nouri, il a 30 ans. Il s'est fait connaître grâce à ses musiques de téléfilms et de feuilletons du Ramadan. Et Mathias Reynal l'a rencontré pour nous.
Tout est parti d'une chanson pour la promotion du téléfilm Tlata del Farat du réalisateur Driss Sawab. Nous sommes en 2021.
C'était le Marbot. C'était une reprise de Cheikh Mouizo. Et une reprise à ma manière. Tu sais, j'ai pris la chanson, j'ai changé des affaires, j'ai laissé que le refrain, j'ai ajouté des couplets à ma sauce un peu jeune. Après Ramadan, j'ouvre mon Facebook, t'as comme 3000 personnes qui veulent t'ajouter, et c'est fou.
En reprenant une vieille chanson du répertoire Malhoun, en apportant juste ce qu'il faut de modernité, Taha Nouri a conquis le public marocain.
Le Malhoun, c'est une poésie d'abord. Okay, c'est une poésie en arabe dialecte, en dérigeant. J'essaie de garder l'âme de la tradition marocaine, mais en la rendant un peu universelle.
Et le succès de Taha Nouri dépasse les frontières du Maroc. Sous les vidéos du jeune artiste, on lit des commentaires venus de tout le monde arabe. Son plus gros hit, pour l'instant, Belhéda, 35 millions de vues sur YouTube. Taha Nouri ne se contente pas de faire des reprises du Malhoun, il continue à explorer ce style musical avec ses propres compositions, ses propres textes.
En fait, j'ai toujours ce commentaire sur YouTube. Le monde me dit « Elle est où la chanson originale ?» Je dis « Non, c'est une chanson originale. » Parce que j'utilise les mêmes manières de faire, en fait. C'est ça mon identité maintenant. Je pense que c'est comme si je suis un traveler dans le time qui vient de, je sais pas, c'est ça ce qui intrigue le monde et que trouve ça fascinant.
Avec à son compteur un EP, Eli Eli, et plusieurs singles, Taha Nouri se lance dans un nouveau projet, la préparation d'un album.
C'est mon premier album, donc je veux me présenter avec un vrai album, avec une histoire, avec une trame. Il n'y a que 3 chansons qui sont finalisées, donc je suis toujours dans la recherche. Je vais essayer de mélanger d'autres styles, un peu de gnawa.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI. والحب قتلنا الهيب وغروينا يا للا انا قلبي صغير والعيله عينك كبار يشعلوا النار كل ما تلاقوا ذوك الشفار انا قلبي صغير.
Notre reportage du jour sur la musique du Marocain Taha Nouri à retrouver, à partager, bien évidemment, comme nos autres contenus sur internet. Les regards toujours braqués vers Goma et plus largement vers l'est de la RDC. Comment, sur place, mettre fin à l'escalade militaire? C'est l'objet de la tournée que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est en train d'effectuer dans la région. Son porte-parole, Christophe Lemoine, est justement notre invité ce matin sur RFI. Au micro de Christophe Boisbouvier, il fait le point et il explique quelles sont les priorités de la France.
Alors, c'est une situation effectivement qui est très inquiétante, une situation qui est extrêmement évolutive. Il y a eu des incursions des troupes du M23 soutenues par le Rwanda qui ont pris la ville de Goma, qui se dirigent maintenant vers le sud de la région. C'est extrêmement inquiétant, surtout parce que pour les populations civiles, c'est absolument dramatique. Il y a eu des morts, il y a des milliers de Congolais qui sont sur les routes et qui fuient les combats, et c'est une situation qui doit cesser. Du point de vue de la France, le meilleur moyen de faire cesser cette situation, c'est de trouver une issue diplomatique, une issue par le dialogue entre le président Tshisekedi et le président Kagame pour pouvoir mettre en place un plan de retrait total de ces troupes du M23 du territoire congolais.
Est-ce que vous demandez aussi le retrait des troupes rwandaises ?
Oui, absolument. Il y a un principe qui est absolument essentiel en la matière, c'est le principe du respect de la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Le Kivu est un territoire congolais et effectivement, les troupes étrangères doivent quitter la zone du Kivu.
L'Allemagne vient de suspendre son aide au développement du Rwanda. Est-ce que la France envisage de réduire elle aussi son aide et voire de décider des sanctions contre le Rwanda ?
Pour le moment, il n'y a pas de décision qui a été prise formellement, ni en termes d'aide publique au développement. S'agissant des sanctions, vous savez que ce sont des décisions qui se décident soit à l'ONU, soit au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une discussion que nous devons avoir à Bruxelles avec nos partenaires européens et aux Nations unies, avec l'ensemble des États qui sont représentés au Conseil de sécurité. L'objectif de la France est clair. Après, les moyens qui seront déployés pour permettre d'atteindre une solution diplomatique, c'est ouvert.
Un extrait de l'entretien de Christophe Boisbouvier avec le porte-parole de la diplomatie française, Christophe Lemoine, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes sur notre antenne vers 6h45 heure de Paris. En attendant, on retourne en Centrafrique pour notre rendez-vous avec l'économie africaine. Second volet ce matin de notre série consacrée au mode de transformation des produits agricoles dans le pays. Hier à Bossongo pour l'huile de palme, aujourd'hui dans la capitale Bangui, où une entreprise s'est lancée dans la production de jus à base de fruits naturels locaux. Les jus Yuri, c'est une première sur place, une démarche d'abord artisanale à sa création il y a 3 ans, mais devenu semi-industriel depuis la fin de l'année. Afrique Echo, Rolf Stedomialeux.
Dès les premières heures de la matinée, Naomi Persévérance et son équipe de 10 personnes sont déjà au travail. Pour entrer dans cette usine semi-industrielle, les mesures d'hygiène s'imposent. Tout le monde a l'obligation d'enlever ses chaussures, de mettre des gants et un masque. Assise sur un banc devant une bassine, Dorcas, l'une des ouvrières, procède au triage des fruits.
Nous travaillons avec un réseau d'agriculteurs qui nous approvisionnent en fruits. Ici, le processus de fabrication se fait en 5 grandes étapes. Le traitement de l'eau, la réception des matières premières, la fabrication des jus, l'embouteillage et l'expédition des produits finis. C'est ce qui me permet de prendre en charge ma famille. J'ai un contrat de 100 000 francs CFA par mois.
Âgée de 31 ans, Naomi Persévérance Magalamon a suivi sa formation au Sénégal dans une entreprise de fabrication des jus naturels et sur Internet. De retour à Bangui, la jeune entrepreneur a décidé de lancer son affaire sur fonds propres.
Peut-être si on dépense minimum 300 000. On peut gagner en termes de bénéfices une marge de 100 000 ou à 125 000. On peut dire à peu près 2 000 bouteilles par mois, qui fait 100 casiers. Un casier, ça coûte 9 000.
L'argent gagné permet d'organiser le fonctionnement de l'entreprise, le paiement des salaires et faire des investissements. L'initiative de Naomi a séduit de nombreux consommateurs comme Anis Zoé.
Je en prends 3 ou 4 fois dans la semaine. En un mois, je peux en consommer une vingtaine de fois. Et ça fait partie de ma culture de consommer ce jus naturel qui est fait par une centrafricaine.
Les jus Yuri sont commercialisés sur tous les marchés de Bangui et dans quelques villes de province, à l'exemple de Berberati, Boire ou encore Bombari.
Les clients potentiels, je peux dire, ce sont les particuliers, les services traiteurs. Il y a les bars et stations Total et boulangeries qui achètent et qui revendent. Ici, en Centrafrique, on ne fabrique pas les emballages. Par exemple, des bouteilles de Henken et de Desperado. C'est ça que nous recyclons et on lave et puis on stérilise ça.
Difficile encore pour l'entrepreneur de gérer les périodes creuses entre les récoltes des fruits. Cette année, Naomi souhaite acquérir une plantation de fruits à proximité de Bangui. Son objectif à long terme, augmenter sa production afin d'exporter les jus dans la sous-région. Rolf Steve Domiale, Bangui, RFI.
Le deuxième volet d'Afrique Echo sur la transformation des produits agricoles en Centrafrique. Les deux épisodes à retrouver dès à présent sur nos applications mobiles. 5h56 à Paris, c'est l'heure de retrouver Charlotte Ntamack, comme tous les vendredis. Charlotte, vous nous parlez d'une bonne résolution que beaucoup ont pris au début du mois pour la nouvelle année. Ce défi, c'était de passer tout le mois de janvier sans boire d'alcool.
Oui, ils l'appellent là-bas le Dry January, en français facile, janvier sec. Ici comme là-bas, il s'agit d'une décision que beaucoup prennent en début d'année. Faire une pause dans la consommation d'alcool et passer le premier mois de l'année sans en prendre une seule goutte. Man, c'est comment non? Tu ne fais que boire seulement les jus. Tu es malade? Laisse mon frère, j'ai rendez-vous avec la bière seulement en février. Alors que certains se donnent de grandes résolutions pour la nouvelle année, qu'ils ou elles transgresseront comme tous les ans avant la fin du premier mois, d'autres se promettent simplement un janvier sans alcool. Mince mon frère, comment l'eau si est fraîche comme ça? J'avais même déjà oublié le goût de l'eau, hein. Se priver d'alcool après les beuveries de décembre revêt un aspect économique lorsqu'on sait que durant chaque mois de janvier, sévit l'épidémie de maux de poche. Et que l'argent s'y sort d'où? Donc, 1 000 francs pouvaient encore faire une semaine dans ma poche, jusqu'à j'oublie même que j'ai l'argent. C'est vrai que si j'économise l'argent que je dépense pour la bière par an, je peux même construire une maison avec, hein. Le mois sans alcool fait aussi beaucoup de bien à l'entourage de la personne qui s'en prive. Chérie, donc tu pouvais aussi passer tout un week-end à la maison sans bouger. Hey, vraiment, si janvier pouvait durer toute l'année, je serais la femme la plus heureuse. Tu ne vois pas que si tu as tenu un mois sans alcool, une année c'est rien, non? Hein? Pardon, prolonge alors jusqu'en février. Si le défi du mois sans alcool paraît simple, le relevé n'est pas aussi facile que ça, hein? Comment janvier si dur même comme ça? C'est comme si le mois a 365 jours. Janvier sans alcool est une espèce de jeûne alcoolique et comme dans tous les jeûnes, tout comme une miette rebelle mal essuyée sur les commissures des lèvres en plein carême vient trahir qu'un jeûneur en public déjeûne en privé, certains jeûneurs du mois sans alcool sont soupçonnés de délits de rupture de jeûne. Chérie, comment tu marches comme ça? Et tes yeux sont un ja. Tu es sûr que tu n'as pas bu? Beaucoup rompent le pacte entre eux et eux de façon alcooliquement assumée. Man, façon tu allumes déjà les bières là. On est encore en janvier, hein? Et alors? C'est moi-même qui ai dit que j'arrête. C'est moi-même aussi qui ai décidé de relancer les hostilités. Bravo à ceux qui ont tenu le pari du janvier sans alcool et pour ceux qui ont craqué avant la fin du mois, que celui qui n'a jamais alcooliquement péché lui lance la première bière. À février.
Ah, février, en effet, Charlotte Ntamack, à vendredi prochain, car du lundi au jeudi, vous le savez, c'est Maman qu'on retrouve sur la radio du monde. Il est 5h59 ici à Paris, 4h59 en temps universel. Restez avec nous, bien sûr, dans 30 secondes, c'est RFI Matin qui débute avec Julien Coquel-Rohem. Le temps pour moi de remercier Pauline Berthélémy qui était à la réalisation et Pierre Pinto à la rédaction en chef. Excellente journée à tous.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Les Hakas sont des populations autochtones pygmées de la République centrafricaine vivant dans la forêt. Mais l'exploitation abusive de cet espace les repousse progressivement vers les zones urbaines. Comment s'adaptent-ils à ce changement et comment cela affecte-t-il leur culture?
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 sur RFI.